Mathieu Lippé et sa chanson, c'est toi la source.
Allez, on va aller à la source maintenant des informations francophones du Canada. On va rejoindre Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco Presse. Allô, Julien.
Bonjour, Denis.
Écoute, je disais tantôt qu'il faisait... c'est encore froid hein, chez vous?
Oui, c'était pas chaud. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai envoyé une petite vidéo à mon équipe qui est basée à Ottawa et Montréal pour leur montrer qu'il neigeait encore à Sudbury mercredi dernier, si ma mémoire est bonne.
Aïe, 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 ouais.
Ça n'a pas resté, là. Puis non, là, il fait plus chaud depuis la semaine dernière.
Bon, en tout cas, on va espérer, là, parce qu'il me semble qu'on a besoin de l'été. Là, ça traîne un peu. Cela dit, on va aussi parler de la réalité de l'immigration francophone au Canada qui n'est pas toujours à la hauteur du rêve.
On entend souvent, et de plus en plus souvent, parler des commentaires d'immigrants et d'immigrantes francophones en milieu minoritaire qui soulèvent que la réalité sur le terrain, quand ils arrivent dans les communautés, n'est pas tout à fait comme on leur avait vendu avant leur arrivée. C'est pas tout le monde qui dit ça, mais il y a une partie qui le dit. Du côté des intervenants au Canada là, qui accueillent ces gens-là, on se rend compte qu'il y a différents niveaux de préparation par rapport à plusieurs éléments, là, surtout la langue. La météo, une des intervenantes nous dit que le Terre-Neuve et l'Imprentard, ça arrive, qu'ils voient des gens arriver sans manteau d'hiver et sans bottes d'hiver aussi. Puis aussi par rapport à différents autres besoins, comme le coût du logement, puis ces choses-là. Ce que tout ça démontre, c'est que c'est en partie que le gouvernement et d'autres intervenants ne sont pas toujours honnêtes dans leur tentative d'attirer des immigrants francophones au Canada. Il y a certaines choses qu'ils ne présentent pas correctement. Ce que les intervenants sur le terrain nous disent, c'est qu'il y a beaucoup de recrutement qui est fait par les employeurs directement, qui vont chercher des employés à l'étranger à travers des programmes du gouvernement quand même, mais on ne sait pas ce qu'ils disent ces candidats-là quand ils vont chercher des francophones, surtout. Du côté des provinces, entre elles, il y a une compétition pour attirer davantage de francophones, donc il y a une incitatif à présenter les choses de la plus belle façon possible. Puis, donc, ce qui manque aussi, on dit de la plus belle façon possible, c'est qu'on ne dit pas toujours, on parle du bilinguisme au Canada, mais on ne l'explique pas bien. On ne dit pas qu'il faut quand même connaître l'anglais dans plusieurs provinces, dans plusieurs régions. Il y a quand même un vent de changement. Les organismes et le gouvernement ont compris qu'il y a un problème avec ce message-là. Parce que quand les gens arrivent sur place, parfois, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la... Parfois, ils vont plutôt s'intégrer dans la communauté anglophone parce qu'ils sont désenchantés par la situation. Ils ne voient pas l'avantage du français directement. On ne leur dit pas où trouver les services en français. Puis s'ils se retrouvent dans un prestataire de services anglophones pour les immigrants, bien, eux ne les renvoient pas nécessairement aux services francophones qui sont disponibles dans la même communauté. Donc, être honnête, mais c'est important pour la rétention parce que pour augmenter la proportion de la communauté francophone, c'est ça qui est dans l'objectif. Puis il faut que les immigrants-là sachent dans quoi ils s'embarquent puis qu'ils soient bien accueillis et bien dirigés sur place.
Ouais, pour avoir vécu, moi, à l'extérieur du Québec, j'avoue que quand je vivais à Edmonton, si je ne parlais pas anglais, ça aurait été un peu compliqué. C'est comme ça, c'est la réalité.
Hein. C'est ça.
Alors, le Congrès mondial acadien 2024 a généré plus de 16 millions de dollars en retombées.
Le rapport a été présenté par le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse il y a deux semaines, je crois. Les 16 millions de dollars ont surtout été profités aux régions de Clare et d'Argyle en Nouvelle-Écosse. Là, c'est sur la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Écosse où a eu lieu la majorité des activités. Selon le décompte, il y aurait eu 12 000 participants pendant les 9 jours d'activité. Là-dessus, il y en a 6 300 qui venaient de l'extérieur de la région. Sur ces 6 300-là, c'était 16 % qui venaient du Québec et 9 % de la Louisiane. Chaque visiteur aurait dépensé 722 $ dans la région. Selon les organisateurs, 722 $ en moyenne, évidemment, selon les organisateurs du Congrès mondial acadien, c'est des bons arguments pour encourager les gouvernements à investir dans des événements culturels importants comme ça. Puis la présidente de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Denise Comeau, elle, je rappelle que aussi le Congrès a créé une espèce de momentum en Nouvelle-Écosse qui a mené à d'autres gains pour la francophonie. Entre autres, il y a eu l'adhésion de la Nouvelle-Écosse à l'Organisation internationale de la francophonie comme observateur. Il y a eu une nouvelle loi sur les services en français et la création du mois du patrimoine acadien.
Oui, ça avance hein, quand même. Une Montréalaise obtient une réforme des procédures de l'Agence des plaintes contre les forces de l'ordre en Ontario.
histoire intéressante, c'est ce qu'il nous est raconté dans Le Voyageur. L'histoire commence le 4 janvier 2023, alors qu'une dame appelée Marianne Goupil visite un ami à Toronto. Pendant qu'elle est là, il y a des agents de police qui entrent chez son ami discrètement. Jusqu'à aujourd'hui, elle entre dans l'entrevue avec Le Voyageur, Mme Goupil dit pas être capable de dire pourquoi la police était dans l'appartement, pourquoi ils étaient là. Puis elle a été terrorisée. Là, on lui a même diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique à cause de cette expérience-là. Elle a donc décidé de porter plainte à l'Agence des plaintes contre les forces de l'ordre. Ça, c'est une organisation créée en Ontario il y a quelques années pour gérer les plaintes contre les forces de l'ordre pour que ce soit pas fait par les forces de l'ordre elles-mêmes. C'est donc indépendant. Elle a fait sa plainte en français, puis au début, les premiers contacts se sont déroulés en français, puis tout allait bien, mais à un moment donné, les réponses ont commencé à arriver, à lui arriver en anglais. Madame Goupil est bilingue, elle vient du Nouveau-Brunswick, elle a donc continué à communiquer en anglais, jusqu'à ce qu'on lui propose, finalement, de faire le rapport final en anglais. Là, elle n'était pas d'accord, elle a dit non, je veux l'avoir en français, puis on lui a répondu, OK, mais ça veut dire qu'on peut pas vous dire quand il va être prêt, ça va être une date indéterminée. Cette réponse-là lui a fait réagir. Elle a porté plainte à l'Ombudsman de l'Ontario, qui lui a mené son enquête et a donné raison à Mme Goupil pour avoir ses services en français. Donc, ça a mené à ce que l'agence ait émis des nouvelles directives pour que les services en français soient assurés tout au long d'un processus de plainte, puis dans des délais raisonnables, contrairement à ce qui allait lui arriver. Donc, la leçon dans tout ça, c'est porter plainte. Ça peut porter fruit et être bénéfique pour les autres.
En effet, l'Alberta ouvre la porte à de nouvelles écoles de langue française.
On dirait que l'Alberta veut démontrer qu'il prend au sérieux son engagement de faire de 2026 l'année de la francophonie dans la province. Le ministre de l'Éducation a annoncé il y a quelques semaines le financement de 3 écoles de langue française en Alberta. Il y a une école déjà existante qui va pouvoir avoir un nouvel édifice parce qu'ils ont besoin de plus de place. Puis il va y avoir 2 nouvelles écoles ailleurs dans la province. Pour la directrice du conseil scolaire du Centre-Est, où seront implantées ces écoles-là, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, mais elle dit aussi sentir avoir l'oreille attentive du ministre en ce moment. Le journal Le Franco, dans son article, rappelle que ça n'a pas toujours été le cas en Alberta, et que c'est même grâce aux franco-albertains, si les francophones de partout au pays ont le droit de gérer leur éducation. C'est des parents franco-albertains qui avaient fait une poursuite contre le gouvernement qui a mené à la cause Mahé jusqu'en Cour suprême. Puis c'est cette victoire-là au début des années 90 qui a forcé toutes les provinces à réorganiser leur système d'éducation pour laisser les francophones gérer leurs écoles.
Hey, je vais faire une anecdote. Je vais encore refaire ce qu'on appelle, quand les gens disent, je fais du name dropping. Tu sais, Julien, j'étais là, j'ai couvert cette cause-là en Cour suprême. À l'époque, j'étais journaliste à Radio-Canada en Alberta. Il faut dire que, mon Dieu, je me date un peu, là.
Oui, avec les dates que j'ai données.
Oui, mais en fait, c'était vraiment incroyable. C'était des personnes, hein, des parents, des personnes tout à fait normales, là, pas des gens avec des grands diplômes et tout ça. Tu sais, il y avait leur éducation, mais ils n'étaient pas juristes. Ils ont été, ils ont été appuyés, rappelons-nous, c'est un ancien juge de la Cour suprême aussi qui a pris sa retraite. Alors, il y a eu beaucoup de travail à faire pour avancer. Puis même après le jugement, fallait tirer souvent par la corde, par la laisse pour que les choses se fassent. Mais bon, ça semble avoir évolué.
ça a évolué, mais on voit avec d'autres causes en Colombie-Britannique, qui est le territoire du Nord-Ouest, que c'est souvent des combats à reprendre parce que les provinces sont quand même réticentes à donner certains, surtout le financement est dur à avoir. Puis on fait des articles aussi, c'est comme tu dis, c'était des gens normaux, puis c'est beaucoup, c'était stressant et très demandant comme tâche et beaucoup sont fatigués après.
Ah oui, mais heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque parce qu'ils auraient trouvé ça dur. Cela dit, je vais préciser aussi que tout ce qui a rapport à l'éducation en français, les droits fondamentaux, on ne peut pas évoquer la clause de dérogation pour se soustraire à ses obligations. Alors ça, c'est juste au cas où les gens se posent la question, parce que c'est beaucoup dans les médias présentement, mais pour le droit à l'éducation en français ou en anglais, en langue minoritaire, on ne peut pas évoquer la clause de dérogation. C'est illégal. C'est dans la Constitution. Alors, excuse-moi, je vais changer d'étaler mon grand savoir. Je vais arrêter ça. Des communautés de la recherche et de des communautés à la recherche de solutions durables pour la sécurité alimentaire dans le Nord.
Oui, je vous parle encore de sécurité alimentaire dans le Nord. Je l'avais fait la semaine passée, mais cette fois-ci, on va le faire du point de vue de la recherche de solutions. L'enquête canadienne sur le revenu a déterminé que l'insécurité alimentaire chez les Inuits et les peuples autochtones du Nord est la plus élevée de toutes les populations autochtones dans les pays développés. Donc, c'est peut-être pour ça que le gouvernement fédéral a investi dans des projets pour contrer l'insécurité alimentaire dans le Nord du Canada. Du côté du Nunavut, on parle dans l'Aquilon d'une recherche qui est en cours pour faire la liste des obstacles pour obtenir de la nourriture dans le territoire. La deuxième étape de ce projet-là, ça va être la création d'une soupe populaire qui fera tomber ces obstacles-là qu'on aura identifiés autant que possible, puis qui, dans le but d'utiliser aussi les aliments qu'on peut trouver sur le territoire. Le projet en question fait la distinction entre les concepts de sécurité et de souveraineté alimentaire. Dans le cas de la souveraineté alimentaire, on inclut là-dedans une dimension culturelle et d'équité. On en prend davantage en compte dans l'élaboration des solutions. Encore au Nunavut, il y a un autre projet qui étudie si la vente en ligne de produits alimentaires peut influencer les prix. Tout ça pourrait mener à d'autres modèles de distribution si on trouve des voies de sortie des modèles traditionnels qui pourraient être plus avantageux. Finalement, au territoire du Nord-Ouest, la première nation de Sambaqué a un projet appelé de la terre, du jardin et du magasin, les voies menées par les Dene pour la sécurité alimentaire. Donc, dans leur cas, ça fait un bout que le projet avance depuis 2023. Ils sont dans une deuxième étape qui va aller jusqu'en 2028. Puis, après avoir identifié donc les problèmes dans la première étape, ils sont rendus à renforcer les savoirs culturels traditionnels, y compris l'apprentissage de la langue par l'intermédiaire des cours de cuisine intergénérationnels, puis l'accès à une épicerie communautaire. Dans leur projet, ils ont construit un centre qu'ils appellent le centre de sécurité alimentaire qui contient une cuisine industrielle mobile et des espaces de stockage qui permettent de mieux utiliser et de préserver les cultures locales et les recettes ancestrales.
Bien, c'est bien intéressant tout ça. Merci beaucoup, Julien Carrivouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse.
Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine.
À la prochaine.